dans la Shira, on a expliqué dans la semaine dernière et la semaine d'avant comment dans la Shira on voit dans plusieurs endroits comment les Bnei Israël ont été clairement inspirés puisqu'ils ont dit des éléments qu'il n'y a aucune manière de comprendre comment ils les connaissaient. D'abord, ils ont parlé du futur. Ils ont parlé de choses comme le Beth Amikdash, comme la résurrection des morts, comme plusieurs choses, comme Jérusalem. Beaucoup de choses qu'ils ont prédit des choses qui allaient se passer. Que Moshe le dise, c'est une chose, mais que tout le monde le dise, alors qu'il n'y a pas de raison qu'il le sache. De là, on a expliqué que Rashi et tous les Mefarshim, ils expliquent que les Bnei Israël ont clairement été inspirés ici par Ruach HaKodesh, par l'inspiration divine. Ça, c'est clair. On a expliqué aussi la semaine dernière que dans la traversée de la mer Rouge, il y a eu beaucoup de Mida Keneged Mida. Mesure contre mesure. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu a rendu, si on peut dire, aux Égyptiens, ce que les Égyptiens avaient fait au Bnei Israël. Donc c'est pour ça qu'on a vu par exemple la semaine dernière, c'est le dernier point avec lequel on a fini la semaine dernière, on avait dit que les Égyptiens, ils arrêtaient pas, les Égyptiens, ils avaient tantôt de l'eau chaude, tantôt de l'eau froide. D'accord? Tantôt ils avaient l'impression qu'ils se noyaient, et tantôt ils avaient l'impression qu'ils remontaient à la surface. Et on a expliqué comment à chaque fois ça correspondait à une des souffrances qu'ils ont fait au Bnei Israël. Parce que Mida Keneged Mida. Kadosh Baruch Hu voulait leur faire ressentir tout ça. Quelque part, c'était leur tikkun. Pas pour les embêter, parce que c'était leur tikkun de recevoir ici-bas ce qu'ils ont fait au Bnei Israël. Alors maintenant, on est à Amar Oyev, donc on est à la 8e ligne de la page 51. Et là, on va voir encore une fois, Mamash, une prophétie des Bnei Israël. Pourquoi? Puisque les Bnei Israël vont raconter ici quel était le sentiment des Égyptiens lorsqu'ils ont décidé de poursuivre les Juifs. Alors que techniquement, c'est impossible que les Bnei Israël le savent. Pourquoi? Puisque lorsque les Égyptiens sont arrivés, les Bnei Israël étaient déjà dans la mer. Et lorsque les Égyptiens sont arrivés, la mer se refermait sur les Égyptiens. Donc ça veut dire qu'il n'y a eu aucun contact. Ils n'ont pas parlé. Et ils ont poursuivi. Et avant même qu'il y ait pu avoir un contact, la mer se refermait sur les Égyptiens. Donc impossible de savoir qu'est-ce que les Égyptiens avaient dans la tête lorsqu'ils ont décidé de poursuivre les Juifs. Et là pourtant, on va voir que dans la Shira, les Bnei Israël vont raconter qu'est-ce que les Égyptiens pensaient lorsqu'ils ont décidé de poursuivre les Juifs. Donc de là, les Mefarshim expliquent, notamment Rashi, il y a encore une preuve, s'il fallait, que c'était clairement de la prophétie. C'était clairement ici de l'inspiration divine. Donc on est à Amar Oyev. Amar Oyev, donc c'est Israël qui dit, l'ennemi a dit, donc il raconte ce que les Égyptiens se sont dit. Chaque Égyptien s'est dit, et là on parle au singulier, puisque c'est pas le peuple égyptien qui s'est dit. C'est chaque personne qui a dit ça. Erdof, je vais les poursuivre, les Juifs. Asig, je vais les attraper, parce que c'est pas parce que tu cours derrière quelqu'un que tu vas l'attraper. Donc on va les poursuivre, on va les attraper. Et Achalek Shalal, je vais partager le butin. Ça veut dire que, apparemment, la raison numéro 1 pour laquelle les Égyptiens ont poursuivi les Juifs, c'était pour l'argent.
Bon. Ah ouais. Pour l'argent.
Ah oui.
D'accord,
c'est là.
C'est poison.
Non, attention, parce que les Juifs, quand ils sont partis d'Égypte, ils ont pris beaucoup d'argent avec eux. Mais ça veut dire que, quand ils se sont réveillés, et ils se sont dit, mais attends, mais qu'est-ce qu'on a fait? La première chose qu'ils ont dit, c'est pas, on a perdu de la main d'œuvre. Non, on a perdu de l'argent.
Le capital
avant. Achalek Shalal. Donc, on va y aller, on va les attraper, et on partagera le butin. Le butin, c'est principalement l'argent. Après, s'il faut, si on peut récupérer les esclaves, au passage, pourquoi pas. Mais il faut savoir que ça fait déjà pratiquement 6 mois que les Bnei Israël ne travaillaient plus déjà en tant qu'esclaves. C'est que depuis l'équivalent d'à peu près Rosh Hashanah de l'année 2448, c'est-à-dire 6 ou 7 mois avant la sortie d'Égypte, 6 ou 7 mois avant la sortie d'Égypte, les Bnei Israël avaient arrêté, l'esclavage était déjà terminé. D'accord? Et donc là, c'est pour ça, ça manquait pas aux Égyptiens. Par contre, qu'est-ce qui leur manquait? C'était le flous, l'argent. Bon. Donc, Amar Oyev, l'ennemi a dit, Erdop Asig Achalek Shalal, Timla Emo Nafshi. Simla emo nafshi, traduction littérale, ça veut dire mon âme est remplie de ça. Je crois que quand une personne dit que son âme est remplie, ça veut dire qu'il pense qu'à ça. C'est-à-dire que les Égyptiens, tellement ça les a rendus faux, pourquoi ils n'ont pas réagi sur place? Pourquoi sur place ils n'ont pas réagi? Ils n'ont pas poursuivi les Juifs. Parce qu'ils ont compris que c'était. Parce qu'au début, ils avaient très peur. Mais ça ne les lâchait pas. Simla emo nafshi, littéralement, ça veut dire que leur âme était remplie de ça. Quand on dit l'âme est remplie de ça, ça veut dire que ça ne te lâche pas. Tu te lèves avec, tu dors avec, tu te relèves avec, tu dors avec. C'est l'argent. Ça ne les lâchait pas. Et donc c'est pour ça qu'ils ont décidé de poursuivre les Juifs, et coûte que coûte. Ari Krabi Torishemo Yadi. Donc je vais lancer mon épée, Torishemo Yadi, et ma main va réussir à les hériter, c'est-à-dire va réussir à reprendre encore une fois l'argent. Alors, ça c'est Israël qui raconte tout ça. Alors qu'Israël, techniquement, n'a aucune manière de savoir comment ça s'est passé. Lui, ils savent qu'ils sont venus pour l'argent. Mais ils n'ont pas parlé. Rachid dit, c'est une prophétie. Ensuite, comment Akadosh Baruch Hu a réagi à tout ça? Nashafta veruchacha. Akadosh Baruch Hu a fait souffler le vent. Kisamo yam. La même mer qui s'est ouverte pour nous, cette même mer les a, les chassot, ça veut dire quoi les chassot? Recouvrir. Saleluka oferet bemaim adirim. Ils se sont noyés comme du plomb, bemaim adirim. Alors là, écoutez bien, il y a deux manières de comprendre ce texte. Il y a Rashi et Rashbam. Alors Rashbam, c'est le petit-fils de Rashi. D'accord? Mais ils ne sont pas d'accord. Regardez bien. D'abord, je traduis littéralement. Saleluka oferet, ils se sont noyés comme du plomb. Bemaïm, dans de l'eau. Adirim, quand? Adirim, ça veut dire les géants. Alors, il y a deux manières de comprendre, attention. Il y a deux manières de comprendre le verset. Où on met la virgule? D'accord? Il y a l'avis de Rashi, qui dit, Salelou, Kaoferet, Bemaïm. Ils se sont noyés, comme du plomb, dans de l'eau, virgule. Qui s'est noyé? Adirim, des gens qui étaient puissants. Donc, on parle des Égyptiens. Ça, c'est Rashi. Vous savez, Rachid explique sur le temps.
Il y a une situation dans le texte, là.
Non.
Kaoferet, il y a les deux points dessus pour s'arrêter.
J'ai compris. Eh oui, mais il y a le Bemaïm, non. Oui, mais Bemaïm, il y a aussi un tab sur le Bemaïm.
Bemaïm.
Bemaïm, Adirim. Bemaïm, c'est-à-dire qu'il y a une coupure. Il y a comme une virgule. Ça, c'est Rachid. Rachid, qu'on comprend. Salou, Kaoferet, Bemaïm, Adirim. Ça, c'est Rachid. Ça veut dire, Rashbam n'est pas d'accord avec ça. Ah, la virgule, virgule théorique.
Voilà.
Rashbam n'est pas d'accord. Rashbam dit non, c'est pas comme ça qu'il faut dire. Faut dire, Salou, Kaoferet. Ils se sont noyés comme du plomb. Bemaïm Adirim dans des eaux extraordinaires. C'est-à-dire dans des eaux puissantes. Et c'est comme ça que le Midrash Nechouma explique. Salou Koferet, Bemaïm Adirim. Alors, sur ça, le Rashbam explique, il dit qu'en vérité, il y a un miracle ici. C'est quoi le miracle? Le miracle, c'est que normalement, tant que l'eau est mouvementée, on peut pas se noyer. Il y a un mouvement énorme dans l'eau. Donc tant qu'il y a un mouvement énorme dans l'eau, normalement, tu peux te noyer. À quel moment Dieu préserve la personne se noie? C'est quand l'eau se calme. Quand l'eau se calme, là, il retombe. Mais quand il y a un grand mouvement de l'eau, l'eau qui bouge dans tous les sens, ben on suit le mouvement de l'eau. Là, c'est quoi le miracle qu'il y a eu? C'est qu'Akadosh Baruch Hu a modifié les règles de la nature. Ça explique Rashbam. Il a modifié les règles de la nature à ce moment-là. Il a fait qu'en même temps, il y avait de l'eau qui soufflait très fort. Et en même temps, ils n'arrêtaient pas de monter et de redescendre. Donc ce qu'on a expliqué, c'était pour Mida Keneged Mida par rapport au fait qu'ils ont noyé les enfants juifs. Alors, donc, Mihamocha Baelim Hashem. Donc, suite à ça, les Bnei Israël, ils disent, Mihamocha Baelim Hashem. Qui est comme toi, Baelim, parmi les dieux, Hashem? Alors, ça veut dire quoi, qui est comme toi parmi les dieux? Il y a plusieurs dieux? Comment vous comprenez ce verset? Comment ils ont traduit, là, chez toi, Guy? Alors, Elim, il y a plusieurs manières de comprendre Baelim. D'accord? Il y a une première manière de comprendre que Elim, ça veut dire les puissances. Mon ami.
Merci. Qui est comme toi parmi les dieux, c'est dans toutes les divinités, puisque eux ils étaient quand même.
Tu me rappelles ma fille, j'ai dit à mon fils, mon chéri, elle me dit, moi tu m'as pas dit ma chérie.
Donc parmi tous les dieux qu'il connaît.
Alors c'est quoi les dieux? C'est quoi les dieux ici? D'accord? Alors je reprends ici. Donc Mihamocha ba Elim. Alors. Elim, il y a deux explications. Il y a une première explication, qui c'est qui a dit? C'est toi qui a dit. Donc deuxième explication, c'est la deuxième explication. C'est quoi les Elim? Alors, je vais vous donner des explications. Première explication, c'est Elim, c'est tous ceux qui se prennent pour des dieux. Par exemple, on sait que Paro se prenait pour un dieu. Sanhérib se prenait pour un dieu. On a eu plusieurs rois dans l'histoire qui se sont pris pour des dieux.
Mais ils se prenaient mamas pour des dieux.
Ah oui, ils avaient un pouvoir tellement fort qu'ils se prenaient pour un des dieux.
Une divinité.
Ils se prenaient pour une divinité. Et les gens les prenaient comme ça.
Même,
ah oui.
Est-ce que même ils y croyaient?
D'accord. Ah bien sûr. Oui, ils manipulaient des populations énormes. Ah non, c'était des gens qui se prenaient pour des divinités.
Ils étaient éduqués comme ça en fait.
Oui, comment Paro disait? C'est écrit dans Ézéchiel que Paro disait Li Yori va ni Asitini. Voilà, ça il est un peu ma boule. Il dit le Nil, enfin le fleuve est à moi, et c'est moi qui me suis fait. C'est moi qui me suis fait, comme ça il disait.
Oui, mais ça va, d'accord.
Bon, voilà, moi qui me suis fait, ça ne veut pas dire physiquement, ça veut dire bon. Alors je reprends. Donc, Mihamocha Baelim Hashem. Quand on parle des dieux, de quel dieu on parle ici? On ne parle pas des dieux. On parle des hommes qui se prennent pour des dieux. Ça, c'est une première explication. Une deuxième explication, c'est quoi Baelim? Elim, c'est les forces. Donc, c'est tous ceux qui servent devant Akadosh Baruch Hu. Et on dit Mihamocha Baelim Hashem, que de toutes les forces qu'on a eues jusqu'à maintenant, on a vu toutes les plaies, etc. On n'a jamais vu une présence d'Akadosh Baruch Hu aussi forte que maintenant. Et ça, on l'a dit plusieurs fois, que la présence divine qu'on a sentie au moment de la traversée de la mer Rouge, on l'a jamais ressentie ni avant, ni après. Et même quand Machiav viendra, on ressentira jamais la même chose. C'était très très spécial qu'il y a eu à ce moment-là. Il y a eu un dévoilement divin d'un coup. On ne les a pas préparé progressivement. Là, Kadosh Baruch Hu en exil, il nous prépare progressivement. Là, on a eu un grand dévoilement d'un coup. Ça n'a jamais existé et ça n'existera jamais, ce même phénomène. Donc, Mi Kamocha Ba'elim Hashem, qui est comme toi parmi les dieux Hashem, Mi Kamocha Nedar Bakodesh, qui est comme toi, Kadosh Baruch Hu, est tellement glorieux Bakodesh dans la sainteté. C'est-à-dire qu'on a vu d'autres rois, mais aucun n'a autant de Kedusha comme toi, Kadosh Baruch Hu. Donc c'est ce que je viens de vous expliquer, c'est que les Bnei Israël à ce moment-là ont ressenti une Kedusha extraordinaire. Nora Teilot Osefele. Nora Teilot Osefele, ça veut dire qu'à Kadosh Baruch Hu, donc il est Nora Teilot. Alors, Teilot, ça veut dire c'est une louange, et Nora, c'est avoir peur. Normalement, c'est deux sentiments qui ne sont pas compatibles. D'accord ? C'est soit on fait des louanges à quelqu'un, ça veut dire qu'on se sent bien, soit on a peur de lui, dans ce cas-là, on se tait. Et la force avec Akadosh Baruch Hu, c'est qu'on fait les deux en même temps. Par exemple, vous prenez un jour de Rosh Hashanah et Yom Kippour. D'accord, c'est un jour redoutable. C'est le jour redoutable. Et pourtant, on est là en train de faire de louanges à Akadosh Baruch Hu. Quand on réfléchit, c'est deux sentiments qui sont pas compatibles. Pas possible. C'est soit t'as peur, tu te tais, soit tu fais des louanges, tu te sens bien. Nora, Teilot. Et les Bnei Israël avaient ce sentiment-là à ce moment-là. On s'est fêlé. Akadosh Baruch Hu a fait fêlé. Alors, c'est quoi fêlé? Fêlé, c'est une merveille. En hébreu, pour dire un miracle, il y a deux manières. Il y a Nes et il y a Pélé. Ness, c'est quand c'est un miracle, c'est quand les lois de la nature ont été brisées. Et Pélé, c'est quand c'est quelque chose qui est tellement miraculeux que c'est étonnant. Et que c'est un Pélé, c'est comme ils auraient, aujourd'hui en français on aurait dit waouh. Et on reste sur une impression comme ça pendant longtemps. Pélé. C'est quoi? Genre de foot Pélé. Pélé.
Et c'est aussi un prénom nordique, Pélé. Pélé, c'est un prénom nordique.
Et Kadosh.
Et du sud, c'est ça, du nord. Kadosh.
Pélé.
Ah tiens, en passant, puisque j'ai... Pélé. Eh bon, enfin, ouais. Après quand je te dirai. J'ai lu un joli pirou sur Kadosh. Nora Teilot Osef Pélé. Ok. Alors, Natita Yeminecha Tivla Emo Aret. Maintenant, encore une fois, comme j'ai expliqué au début de la Zéchir, hein, si on n'a pas les Midrashim, on est vraiment à côté de la plaque dans la Zéchir, particulièrement. Vraiment, on comprend rien. Regardez ce verset. Natita Yeminecha Tivla Emo Aret. Akadosh Baruch Hu, tu as étendu ta main droite, Tivla Emo Aret, la terre les a avalés. Non, on croyait que c'était la mer. Qu'est-ce qui s'est passé? Une fois c'est la terre, une fois c'est la mer. Alors regardez le Midrash, que le Midrash raconte. Le Midrash dit comme ça. Il dit qu'il y a eu un conflit entre la mer et la terre. Qui devait recevoir les Égyptiens? Tu entends? Il y avait un conflit entre la mer et la terre qui devait recevoir les Égyptiens. Alors, la mer, par définition, c'est quoi la nature de la mer? La mer doit rejeter les corps. C'est comme ça, c'est la nature, on est d'accord? Bon. Donc la mer a rejeté les corps sur la plage. La plage n'était pas d'accord. Elle dit non, je ne les veux pas. Pourquoi tu ne veux pas? Alors, le Midrash raconte, il dit que la terre a eu l'argument suivant. Elle a dit, nous, on sait que lorsque Caïn a tué Evel, quand Caïn a tué Evel, il a pris son frère, il l'a enterré. Et on dit, c'est écrit que Akadosh Baruch Hu lui a dit que il y a le sang de ton frère, enfin, le son du sang de ton frère qui est en train de crier, donc c'est pour ça que la terre a été maudite. Elle a dit, regardez, pour une personne qui a été enterrée, on va faire un scandale jusqu'à maintenant. Vous voulez enterrer une population entière avec leur sang? Moi, je veux pas, je prends pas.
Là, c'est la terre,
c'est la terre qui parle.
Donc, on est bien d'accord que la terre, elle parle. Hein.
Oui, bon. Alors, attendez. Et le Midrash raconte. Non, mais là, on comprend, là. Parce que là, dans le Hazyashi, hein, une fois on dit que c'est la terre qui les engloutit, une fois on dit que c'est la mer. La terre, la mer. C'est pour ça que le Moussa.
Tu l'as déjà entendu, la terre,
alors. Le Midrash. Pourquoi le Midrash dit ça? Parce que dans la Shira, des fois on parle de la terre, des fois on parle de la mer. La terre, la mer. Donc là, le Midrash explique qu'en vérité, il y a eu un ping-pong entre la terre et la mer. Et que finalement, comment on a réussi à convaincre la terre? Parce que concrètement, après, les corps ont atterri sur la terre. C'est Akadosh Baruch Hu a juré à la terre, il lui a dit que pour ce sang-là, je te ferai rien. Je t'attaquerai jamais en justice pour ce sang-là. Et là, de là, il dit que c'est pour ça que c'est écrit ici, Natita Yeminecha, que Dieu a étendu la main droite. Chaque fois qu'on dit que Dieu étend la main droite, ça veut dire que, explique le Midrash, ça veut dire que Dieu est en train de prêter un serment. Pourquoi? Parce que c'est écrit Nishba Hashem Bimino, ou Bidroa Ouzo, que Dieu jure avec la main droite. Donc avec ça, comme ça le Midrash explique ce verset. Il dit Natita Yeminecha, tu as étendu ta main droite, ça veut dire tu as juré que tu n'allais rien faire à la terre, et c'est pour ça qu'après, Tivla et Moharès, la terre dit bon, ok, je la prends. Vous voyez, sans le Midrash, on est complètement à côté de la plaque. Nachita Vechazdecha Amzuga Alta. Akadosh Baruch Hu, tu es descendu avec ta grande bonté. Et Amzou Gaalta, tu as libéré ce peuple. Donc ce peuple de qui on parle, c'est les Bnei Israël qui parlent bien sûr d'eux-mêmes. Tu nous as libérés. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent dire ici les Bnei Israël? Ça veut dire quoi Amzou Gaalta? Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu a montré aux Bnei Israël que dans toute l'humanité, le seul peuple qui lui est vraiment important, c'est lequel? C'est Israël. Amzou Gaalta, ce peuple, pourquoi ils disent ce peuple en parlant d'eux-mêmes? Pourquoi ils disent pas tu nous as libérés? Ça veut dire, de là, le Midrash explique, il dit que Akadosh Baruch Hu, tout le monde lui appartient, et comme il dit dans un autre endroit, Amzu Yatsartili, que ce monde, ce peuple, c'est la raison pour laquelle j'ai créé le monde. Donc c'est ce qu'il dit ici, Amzu Gaalta, Amzu, le même terme, Amzu. Tu es descendu, et Amzu Gaalta, le peuple pour lequel tu as créé principalement le monde, c'est le peuple que tu as libéré. Si tu veux. Bon, c'est du Midrash, hein, attention, c'est... Parce que sinon, si t'as pas le Midrash, excusez-moi, mais toute la Shira, c'est de la répétition. Il appelle le Midrash qui correspond à chaque mot. On a compris, on s'est libéré, c'est tout. Pourquoi tu répètes 20 fois? Là, on voit que chaque pasouk correspond à une autre idée. Nehalta ve'ozecha el neve kotchecha. Et Akadosh Baruch Hu, donc là on parle du futur, Akadosh Baruch Hu nous conduit avec sa puissance el neve kotchecha. Alors c'est quoi neve kotchecha? Neve, c'est la beauté. Comment il traduit ici neve? La demeure. Oui, enfin bon, non, c'est pas la traduction littérale ça. Neve, c'est la beauté. D'accord? Neve kotchecha, c'est la beauté sainte. Donc la beauté sainte, c'est quoi? C'est le Beth Amikdash. Et donc, les Bnei Israël parlaient déjà du Beth Amikdash. On sentait déjà qu'on avançait vers le Beth Amikdash. Alors que, on ne nous en a pas parlé encore. On savait simplement qu'on allait recevoir la Torah. Ça, on le savait. Mais tout le reste, Mishkan, Beth Amikdash, tout ça, on n'est pas au courant de ça encore. Les Bnei Israël, on en parlait sans le savoir dans la Shira. Ils ont parlé d'une belle maison qui sera sainte. C'était le Beth Amikdash. Alors que, théoriquement, techniquement, ils n'ont aucune manière d'être au courant de ça. Shamu Amim Irgazun. Bon. Alors maintenant, encore une fois, toujours puisqu'on parle des prophéties. Maintenant, les Bnei Israël vont raconter comment les autres peuples ont réagi quand ils ont entendu ça. Maintenant, ils parlent en temps réel, donc les autres peuples n'ont pas encore entendu. Même s'ils ont entendu, c'est maintenant que ça se passe. Donc comment je peux dire comment les autres peuples ont réagi alors qu'on est en train de chanter en temps réel? Donc encore une fois, c'est une prophétie. Shamu Amim, les peuples ont entendu, Irgazun, ils sont énervés. Alors là, vous allez voir qu'on va donner plusieurs termes et ça va correspondre à plusieurs peuples. Il y a une première catégorie. C'est les peuples qui peuvent rien faire et qui sont pas concernés. Parce que ça va rien leur changer qu'Israël a été sauvé. Mais ça les énerve. Vous savez, des fois vous entendez des choses qui vous énervent. Mais ça va pas vous changer grand chose dans votre vie. D'accord? Mais concrètement, ça m'énerve. Parce que ça m'énerve. Voilà, par exemple, puisque tout à l'heure on a parlé d'actualité, mais enfin sans redire le nom, il y a des choses qui se passent qui nous énervent. Mais non, c'est pas que ça m'a changé quelque chose à moi dans ma vie. Ça m'a rien changé dans ma vie, je veux continuer à me lever de la même manière, à dormir de la même manière, tout va rester de la même manière. Mais ça m'énerve. D'accord? Oui. Alors là, c'est quoi le Irgazoun? C'est les peuples qui ont entendu, qui, normalement, dans le cours de l'histoire, n'ont aucune raison. Donc c'est vraiment entendu, ils vont entendre des années plus tard, ou des mois plus tard. Ils n'ont aucune raison d'être concernés par Israël, puisque Israël est dirigé vers la terre d'Israël. Donc les peuples qui sont ailleurs n'ont aucune raison d'être concernés par ça. Mais ça les énerve. Ça les énerve parce que la réussite de l'autre les énerve. D'accord. Ril Achaz, je vais Pelachet. Après, on parle des habitants de Pelachet. Donc c'est quoi Pelachet? C'est les Philistins. D'accord? C'est quoi les Philistins? Les Philistins, eux, ils ont peur. Pourquoi? Parce que eux, qu'est-ce qu'ils se sont dit? Ils ont dit, attends, ils arrivent. Ils arrivent, ils vont venger. Parce qu'il y avait eu une histoire quelque temps avant, dans laquelle ce qu'on appelle les Yeshvé Félachet, ils avaient tué les enfants d'Ephraïm. Et donc ils ont dit, ah, maintenant qu'ils ont fait les muscles, ils vont venir, ils vont faire les comptes. Donc eux, ils ont eu peur. Les autres, ils sont seulement énervés. Mais ils n'ont pas eu peur, parce qu'il n'y a pas de gens qui viennent nous voir. Yeshvé Félachet, ils ont dit, attends, ils ont eu peur, ils vont venir nous voir. Maintenant qu'ils savent se défendre, ils vont venir défendre le sang de leurs frères. Ensuite, les Bnei Ephraim, les enfants d'Ephraim, c'est une histoire qui s'est passée. Mais quoi qu'il en soit, ils ont eu peur parce qu'ils ont dit que les Bnei Israël arrivent. Les premiers n'avaient pas peur. Az. Ils sont partis. Il y a une partie des enfants d'Ephraim qui sont partis. D'accord. Avant la libération. C'est qu'avant la libération, il y a des gens qui sont partis. Avant la libération.
On disait qu'on pouvait pas sortir d'Égypte.
Eh ben oui, il y en a qui sont sortis. Il y en a qui sont sortis. Il y en a qui ont voulu faire du forcing. C'est une longue histoire qui est racontée dans le... Très belle histoire. c'est une histoire qu'on raconte comment il y avait des gens qui ont voulu prendre une force le destin.
Des évadés.
D'accord, donc on a eu pas mal, une belle population qui est partie, qui ont réussi à sortir, mais c'était pas avec l'ordre de Dieu. On leur a dit attention, Dieu n'a pas donné encore signal. Ils sont partis. Ça s'est fini en catastrophe. D'accord, ils se sont fait attaquer, etc. Et donc ceux qui les ont attaqués se sont dit maintenant, leurs frères vont venir les défendre. Ils ont dû aller vers Israël. Bah oui, on savait, Israël, on connaissait. Abraham, etc.
Ils voulaient forcer le destin.
Ils ont voulu forcer le destin. Mais c'est une histoire qui est très peu documentée. Hein. C'est très peu documenté. On parle un petit peu dans le Midrash, mais on n'en parle presque pas. On sait que c'était les Bnei Ephraïm. C'était les descendants d'Ephraïm. Donc, Namogu Koyeshve Chénan. D'accord. Non, pardon. Ah, non, j'ai oublié un peu. J'ai inversé. Donc, on a dit, il y a eu les premiers qui sont énervés. Mais parce qu'ils ne sont pas concernés. Mais ils sont énervés parce que ça les énerve. Il y a les deuxièmes qui ont eu peur. Peur de la vengeance. Il y a les troisièmes maintenant, Aziv Halou Aloufé Edom. Alors Edom, d'accord. Les descendants de Edom, eux ils ont eu peur. Ah oui, pourquoi ils ont eu peur? Alors a priori, il pose la question le Midrash, il dit mais je comprends pas. Hein. Pourtant, plus tard on sait qu'Akadosh Baruch va interdire aux Bnei Israël de passer par Edom. Alors pourquoi ils ont eu peur? Pourquoi les habitants de Edom ont eu peur? Ils ont quand même eu peur. Pourquoi ils ont eu peur? Parce qu'ils se sont dit, il y a plusieurs explications, mais une des explications, on dit que Edom, il descend de qui Edom? Descend de Esav, d'accord? Or, on sait que Esav et Yaakov, c'est une vieille histoire, une vieille marloquette. Donc ils se sont dit, c'est vrai que leur Dieu va leur interdire ou leur a interdit de passer par chez nous, mais va savoir ce qu'il nous prévoit encore, parce que c'est une vieille histoire de famille qui date depuis déjà des siècles. Donc eux aussi, ils ont eu peur. Et chacun, il a peur pour sa raison. Et les Moav, Yochazemo Ra'ad. De la même manière, Elé Moab, donc ceux qui étaient forts, Elé, ça veut dire ceux qui étaient forts de Moab, Yoraz et Morad, eux aussi ont eu peur. Alors, pourquoi ceux de Moab ont eu peur? Moab, le père de Moab, c'est qui? C'est qui l'ancêtre de Moab? C'est Lot. D'accord? Lot, il était en marloquette avec qui?
Abraham.
Donc eux aussi, ils se sont dit, ah, maintenant qu'ils sont devenus importants, ils vont venir régler les comptes. Non, c'est vrai que techniquement Dieu va interdire de passer par là-bas, par Moab, d'accord, et par... Il va interdire Dieu, il n'y a pas de problème. Mais ils ont quand même peur parce qu'ils se sont dit, il va savoir s'ils vont ressortir les vieux dossiers. Et chacun, il a peur pour sa raison. Namogu kol yoshvei chenan. Par contre, il y en a qui ont eu vraiment très très peur, et pas une vieille histoire de famille. Eux, ils ont peur parce qu'ils savent qu'ils sont clairement visés. C'est kol yoshvei Kenaan, tous les habitants de Canaan. Tous les Cananéens, tous les Israéliens. Ah, eux, ils ont eu peur. Pourquoi eux, Namogu, c'est-à-dire ils ont fondu. C'est quand quelqu'un, il fond. Les habitants de Canaan, c'est-à-dire ceux qui se trouvent dans l'endroit qui est la terre des restes d'Israël. Eux, ils ont eu très peur. Pourquoi ils ont eu très peur? Parce que ils ont compris, d'accord? Ils ont compris que Akadosh Baruch Hu va donner l'ordre d'aller en Eretz Israël, et là, ça va être chaud. Ils ont fondu. C'est-à-dire quand on dit quelqu'un, il fond, c'est-à-dire que vraiment, il a très très peur. On a eu les termes qui correspondaient à chacun. Donc le premier, on a dit, ça les a énervés. Le deuxième, ils ont eu un petit peu peur. Ils se sont dit, bon... Ils ont eu peur parce qu'ils ont dit ils vont venir défendre le sang de leurs frères qui sont partis, qui ont voulu forcer le destin. Les troisièmes, c'était Edom. D'accord? Donc Edom ont eu Behala. Behala, ça veut dire, c'est une peur. D'accord? C'est une peur, mais c'est pas une grande peur. Et les Moab, Yochazemo Ra'ad, on a dit que ceux de Moab, Yochazemo Ra'ad, ils ont plaît. Bon. Alors, on va essayer d'expliquer un petit peu tous ces termes-là.
Les Cananéens, c'est quoi leur problème? Qu'est-ce qu'ils ont fait?
Ben, les Cananéens, ils savent qu'ils sont visés.
Oui, mais qu'est-ce qu'ils ont fait?
Ils ont rien fait, mais ils savent qu'on va venir, on va les mettre dehors.
Ils sont entre eux, c'est tout.
Bizarre. Oui. Eux, c'est les pires. Ils disent, les autres, peut-être qu'on va ressortir des vieilles histoires de famille. Mais ils sont pas visés, mais nous, on est visés, on va nous mettre dehors.
C'est ça, la fin du bail.
La fin du bail.
C'est juste un bail, il y a un écoffement
précaire. Eh oui, si on va nous mettre dehors.
Ils n'ont rien fait. Alors comment je peux les mettre dehors? C'est l'ordre de Dieu, il y a quelque chose là-bas quelque part.
Non, c'est une autre question ça. Là je parle de leurs sentiments, je ne parle pas pourquoi Dieu l'a fait. Et donc, de manière générale, Tipol, Aleem et Mata Vafahad. Sur tous les habitants de la planète, on a eu Emata Vafahad. Alors Emata Vafahad, c'est deux termes pour dire la crainte. Emata, c'est la peur. Emata, c'est la crainte. Vafahad, c'est la peur. Quelle est la différence entre la crainte et la peur? La crainte, c'est lointain. La peur, c'est quand c'est proche. Ça veut dire comme ça. Quand il y a un événement qui va arriver, peut-être dans un an ou dans deux ans, j'ai la crainte. Ah, j'ai peur, je sais pas comment ça va se passer. C'est une crainte lointaine. C'est quoi parad? Parad, c'est quand la chose est devant moi et que, mon cœur commence à trembler. Donc selon, plus on était proche des Bnei Israël, et plus on avait peur. Ceux qui étaient loin, c'était la crainte. Ceux qui étaient proches, c'était la peur. D'accord? Donc il y a eu les deux. Bigdol Zeroacha Idemu Kaaven. Alors ça, encore une fois, sans le Midrash, on comprend rien. Bigdol Zeroacha Idemu Kaaven, lorsque Dieu a décidé de mettre son bras, Idemu Kaaven, tout le monde se tait comme de la pierre. Pourquoi tout le monde se tait comme de la pierre? Alors le Midrash raconte la chose suivante. Il dit, lorsque Israël s'en sortit de la mer, Amalek a rassemblé les dirigeants de toutes les contrées avoisinantes. Et il leur a dit, écoutez, il faut qu'on fasse la guerre à Israël. Moi tout seul, je peux pas, comme ça il leur a dit. Si vous venez avec moi, on peut gagner. D'accord. Raconte le Midrash, au même moment, quelques temps après la traversée de la mer Rouge, Moshe Rabbeinu a prié. Parce que Moshe Rabbeinu a vu ce qui est en train de se passer. Et comme Moshe Rabbeinu a prié, à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Kadosh Baruch Hu a fait un miracle. C'est que, ils se sont tous tués comme de la pierre. Ça veut dire qu'il y avait un meeting, ils s'étaient tous rassemblés. Et donc chacun devait donner son idée. Et à un moment, ils ne savent pas pourquoi, tout le monde s'est tué, il n'y avait plus rien à dire. Bon, ok, on s'en va. Et c'est sur ça qu'on dit Idmu Kaaven. Quand Dieu a mis son bras, Idmu Kaaven, ils se sont tués comme de la pierre. Ils sont repartis comme ils sont venus. C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas eu le temps de faire un projet. Et encore une fois, ça c'est le Midrash qui explique. Et donc, toujours, c'est du futur, bien sûr. Hein. C'est des choses qui se sont pas encore passées, ça, hein, au moment où dit la Shira. Et donc, tout ça, c'est des miracles qui vont continuer à se passer sans cesse. Ad Yavor Amcha Hashem, Ad Yavor Amzukanita. Jusqu'à que ton peuple, Akadosh Baruch Hu, va traverser la mer Rouge. Et Ad Yavor Amzukanita, jusqu'à ce que le peuple que tu as acheté va traverser la mer Rouge. Alors, pourquoi, ça veut dire quoi le peuple que tu as acheté? Ça, c'est dans Pirkei Avot, on va l'étudier d'ailleurs cette semaine. C'est écrit dans Pirkei Avot qu'il y a quatre choses qui sont appelées Kinyan, qu'Akadosh Baruch Hu dit qu'il les a achetées, qu'il les a acquéries, qui sont à lui. Ça veut dire que c'est des choses, ça veut dire quoi quand je dis je l'ai acheté? Ça veut dire que c'est une chose qui a une grande importance pour moi. On sait qu'on a par exemple le Beth Amikdash, le ciel, la terre d'Eret Israël, et Israël. Quatre choses que Dieu a acquéries. Quand il dit l'acquérir, ça veut dire qu'il dit c'est à moi et j'y tiens très fortement. Tout appartient à Kadosh Baruch Hu. Mais ça, Kadosh Baruch Hu, il tient particulièrement. Alors, Tevi'emo v'titaremo be'anachalatra. Le ciel, ça veut dire tout ce qui est les malachim, le Gan Eden, etc. Tout ce qui dépasse l'entendement. Tout ce qui est spirituel. Tevi'emo v'titaremo be'anachalatra. Donc les Bnei Israël, ils continuent, ils émettent le souhait. Ils disent, on émet le souhait que Akadosh Baruch Hu, tu vas nous amener et tu vas nous implanter. D'accord, Titaemo, ça veut dire planter, mais là, il faut le comprendre du sens implanter. Behar Nachalatra, dans la montagne que tu nous as promis. Donc c'est quoi la montagne que tu nous as promis? C'est le mont Moria, le mont dans lequel on va installer le Beth Amikdash. Machon le Shivtecha Pal Ta'achev. Donc là, ils disent explicitement, on veut faire une demeure pour s'installer, une demeure qu'Akadosh Baruch Hu, tu nous as demandé. Là, encore une fois, on voit la prophétie claire, les Bnei Israël ne sont pas censés être au courant du Beth Amikdash. Donc vous voyez comment progressivement, plus on avance dans la Shira, au début on parlait d'une maison, après on parlait d'une demeure qui est sainte, et là la troisième fois qu'on en parle, c'est carrément, tu vas nous amener dans la montagne que tu as choisie pour faire une demeure pour t'installer pour toi, Kadosh Baruch Hu. Ça veut dire plus on avançait dans la Shira, et plus le projet du Beth Amikdash est en train de se former. C'est ici qu'il s'est formé le projet du Beth Amikdash, dans la Shira. C'est là qu'il s'est formé, c'est là que les Bnei Israël ont imaginé le Beth Amikdash. Mikdash Hashem, connais-nous Yadecha. Alors, la quatrième fois qu'il mentionne le Beth Amikdash, là c'est même pas un projet à nous. C'est un Beth Amikdash que tu vas construire avec tes mains. Et donc là, vous comprenez qu'on parle pas du Beth Amikdash. On parle pas du premier et du deuxième Beth Amikdash. Là, carrément, ils font mention un troisième Beth Amikdash qui va être construit par Akadosh Baruch Hu. Min Machloket dans les Mefarshim, est-ce que le troisième Beth Amikdash va être construit? Dans la Gemara, est-ce que le troisième Beth Amikdash va être construit par les hommes ou par Akadosh Baruch Hu? C'est une machloket qui n'a pas été tranchée. Et une des manières de répondre à cette machloket, c'est qu'on peut dire que le Beth Amikdash va descendre du ciel tout près, mais qu'il manquera certaines choses. Par exemple, il manquera la porte. Or, on sait qu'alachiquement, il y a une halakha, dans la halakha de Shabbat, qui dit que lorsqu'on met la porte dans une maison, c'est considéré comme si on a fini la maison. D'accord. Qu'on a terminé la maison. Donc, voilà. Donc, on va dire que, c'est le rabbi qui explique comme ça. Donc, on va dire que le Beth Amikdash va descendre tout près. Dieu va nous laisser la porte sera posée, on prend, on met la porte, c'est considéré comme si on l'a fait. Parce qu'en vérité, c'est quoi le symbole qu'il y a derrière? Le symbole qu'il y a derrière, c'est que pendant l'exil, on a construit le Beth Amikdash. Il se construit pas tout seul, le Beth Amikdash. Chaque fois qu'on fait des mitzvot, on construit un Beth Amikdash virtuel. Et Akadosh Baruch Hu, il attend qu'on a fini de construire le Beth Amikdash, il dit voilà, il est là, il suffit juste de mettre la porte, il est prêt. Vous avez les clés, vous rentrez. Donc, Hachem Imlor, Leolam Vaed, Hachem Imlor, Leolam Vaed. Voilà, on s'arrête ici. Donc, Akadosh Baruch Hu régnera à jamais, et donc, c'est le souhait que c'est le souhait avec lequel les Bnei Israël tiennent. Voilà.
Azak ou Baruch. Ce qui est étonnant avec Israël, c'est que nous, on se rappelle toujours des occupants précédents. Est-ce que, par exemple, tu vois, les Gaulois qui ont chassé les Huns, ou je sais pas dans quel sens, n'importe lequel, finalement, les peuples qui s'installent dans une terre ne font jamais référence pendant des siècles, aux précédents habitants de la terre. Ils les effacent. Et ils n'en font jamais référence. Et nous, on prend un malin plaisir à se rappeler qu'avant, avant les Hébreux, avant les Israéliens, il y avait des peuples de ci et cela.
C'est la question.
Oui.
Amen.
Amen.
Amen.